Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Florian Chausson.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le contexte un peu bizarre de l'épidémie de Covid-19 qui a vu la moitié des pays du monde se mettre en quarantaine. Nous, on est en France, on est chacun chez soi, alors que d'habitude, je préfère aller directement sur le lieu de travail des personnes à qui je donne la parole. Mais aujourd'hui, bon, bah voilà, on va le faire à distance parce que tu as un message qui est particulièrement important, qui est particulièrement nécessaire à faire entendre en cette période de confinement, à une heure où on est en train de se poser la question de savoir ce qui a vraiment de la valeur. Donc voilà, je voulais te donner cette parole. Florian, je te remercie de jouer le jeu. Nous, on est dans ce podcast 2030 Glorieuses. Je révèle ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. Toi, Florian, tu es le fondateur de Routine. C'est une marque de montres certifiée Origine France Garantie. J'aimerais te poser cette première question. Pourquoi la montre Made in France, c'est une espèce en voie de disparition ?
Effectivement, ça fait 40 ans que la filière se délite, que les savoir-faire partent, disparaissent. Parce que ça fait 40 ans qu'on mondialise et qu'on a mis au cœur de nos entreprises le profit plutôt que l'être humain et que le savoir-faire. Et que du coup, on a laissé filer comme ça depuis 40 ans tout un tas de savoir-faire sur tout un tas de filières. Et moi, du coup, j'ai voulu, par routine, essayer de réparer un petit peu cette filière qui était la filière horlogère. Et j'ai découvert un petit peu l'horlogerie par hasard pendant mes études. J'ai fait un stage dans une maison horlogère, c'était en Suisse, c'était pas en France. C'est là-bas que j'ai découvert les hommes et les femmes qui étaient derrière ces magnifiques produits. Le temps qui passe à travailler sur leurs établis et tout le soin et la minutie qu'ils mettent dans les gestes et dans leur travail et l'envie ou l'amour qu'ils y mettaient.
Depuis 2016, tu tentes de relocaliser les moyens de production en France, hein.
Exactement, et je me suis lancé en septembre 2016, juste après être diplômé d'une école d'ingénieur. Et l'objectif, c'était moi, j'avais pas envie de continuer à travailler en Suisse. Je voulais travailler en France. Je voulais participer au développement de notre industrie. Si tu veux, moi, pendant mes études, j'ai un cursus de formation assez particulier, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur, certes, mais je suis pas passé par le parcours classique de ceux qui arrivent en école d'ingénieur, qui sont un bac scientifique plus une classe préparatoire. Moi, je suis passé par la case bac professionnel en alternance à la SNCF. Donc, si tu veux, je suis né dans l'industrie et j'ai découvert l'industrie en apprenant un métier et en voulant apprendre un métier plutôt qu'en voulant avoir un diplôme. Et c'est justement en apprenant ces métiers que je suis passé par le bac pro, puis par le BTS, que j'ai découvert la gestion de projet, l'industrie en général, etc., qui m'a amené derrière ensuite à refaire une classe préparatoire, à intégrer une école d'ingénieur et à faire différents stages dans différentes industries. Et à la fin de mes études, je me pose la question, à quoi maintenant tu vas servir ? Ton diplôme, tu vas le mettre au service de quoi ? Et ton cerveau et ton temps. Et du coup, par l'amour de ce stage dans une maison horlogère, la filière, les savoir-faire, j'ai voulu me mettre au service de la filière horlogère française, qui est passée de 50 000 emplois à 2000 des années 70 à aujourd'hui.
Et donc aujourd'hui, tu t'es lancé dans une activité entrepreneuriale qui est quand même un brin particulière, puisque en général, les gens lancent leurs produits, ils mettent presque beaucoup plus d'énergie à communiquer et à créer un besoin qu'à vraiment peaufiner le produit en tant que tel. Je caricature peut-être un petit peu, mais c'est quand même ce qui me vient en tête. Et toi, en fait, tu as d'abord dû faire tout un travail d'identification des savoir-faire et même une envie de tout relocaliser directement en Franche-Comté.
C'est ça. En fait, moi, avant d'être un projet commercial ou un projet de start-up ou tout ce que j'ai pu entendre quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout en fait un projet industriel. J'étais tout seul, je sortais d'école, mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit de porter un projet industriel ? Ben, je suis pas forcément d'accord. Et du coup, effectivement, en fait, routine, c'est j'ai placé, si tu veux, le marketing au service du projet et pas le projet au service du marketing. En fait, c'est vraiment une démarche un peu inversée. Et donc, en fait, moi, avant tout, c'est je remonte la filière, je vais voir quels sont les métiers qui nous restent. Ce que je disais, on est passé de 50 000 emplois à 2000, donc il y a des savoir-faire qu'on a perdus. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qu'on peut relocaliser ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans quel niveau de finition ? Avec quel coût, avec quel savoir-faire, avec quelle entreprise. Et donc du coup ça m'a pris un an et demi à sillonner un peu les routes de la Franche-Comté. C'est là-bas qu'est le berceau de l'horlogerie française. Il y a d'autres entreprises un petit peu aussi partout en France, mais principalement en Franche-Comté, c'est là-bas qu'est le berceau. Et donc du coup comme ça, j'ai passé un an et demi à rencontrer des artisans, des industriels, des PME. Et des personnes surtout passionnées, mais aussi un petit peu apeurées de ce qu'allait devenir ce secteur d'activité. Et donc du coup, moi, je me suis amusé à proposer un peu une alternative et un projet très engagé avec cette colonne vertébrale qui est tout ce que je peux faire en France, je vais le faire en France. Et puis c'est comme ça que je me suis amusé un petit peu à convaincre tous les ateliers qui m'accompagnent aujourd'hui.
Oui, et c'est là aussi ce qui est intéressant dans la démarche de routine que moi j'ai suivi dès le début sur les réseaux sociaux, je te l'avoue. J'ai beaucoup apprécié comment tu racontais tes rencontres avec ces artisans, comment tu essayais de faire revenir ces savoir-faire, comment tu essayais de les redéployer, et la franchise aussi qu'il y a sur l'ambition du Made in France qui est parfois floue, souvent utilisée de manière un peu abusive. On peut certifier un produit Made in France alors qu'il est loin d'être complètement fabriqué en France. Et toi, tu es honnête sur le fait que les montres étaient à 80, puis maintenant, si je dis pas de bêtises, à plus de 90% fabriquées en France. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour atteindre les 100%, Florian ?
Effectivement, le Made in France est quelque chose d'assez flou. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Il y a rien qui est assez suffisamment transparent pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière le Made in France. Les seuls qui sont transparents, en fait, au final, c'est les entrepreneurs et c'est la stratégie de communication de l'entreprise. Et c'est celle que c'est le choix que j'ai fait moi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a plus de 80% de composants qui sont fabriqués en France. Ce qui nous manque aujourd'hui, principalement, c'est le mécanisme à l'intérieur qui n'est plus. Des composants sont fabriqués en France, mais l'intelligence et une entreprise qui maîtrise l'ensemble du savoir-faire, il n'y en a plus en France depuis le début des années 2000. Et aujourd'hui, moi, ça fait partie de mes combats au quotidien d'essayer de retrouver petit à petit, composant par composant, bonne volonté par bonne volonté. Des anciens qui ont des connaissances, qui veulent bien les partager, d'essayer de reconstruire un petit peu tout ça, moi, de comprendre un petit peu comment on pourrait arriver à relocaliser cet élément-là, et puis d'arriver à créer une espèce de collectif ou d'intelligence qui va porter un projet qui est ambitieux, parce que du coup, c'est un composant qui est très complexe, dans lequel, à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-composants, avec beaucoup de savoir-faire très différents, des matériaux aussi différents, et donc en fait ça c'est un projet industriel dans le projet industriel, et donc du coup ça fait partie des projets long terme que je porte en mode sous-marin.
Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Moi, je vais t'avouer quelque chose. Je trouve les montres routines absolument magnifiques et pourtant, je n'en achèterai jamais parce que j'ai hérité de la Leap Nautic Ski de mon grand-père qui date du début des années 60. Et si je dis pas de bêtises, c'est une montre made in France à l'époque. Dans la bouche de mes grands-parents, Leap, c'était presque le cadeau ultime. C'était une marque qui avait une aura extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait en 60 ans, 70 ans pour que tout ça disparaisse?
Ouais, Leap, ça a été notre fleuron horloger. C'était un des fleurons industriels. Donc, il était dans le secteur de l'horlogerie, mais il était catégorisé comme l'un des fleurons industriels. Et effectivement, c'est la montre que tu portes est effectivement made in France en très 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 grande partie. Et sur ces 70 dernières années, on a dévalorisé le travail des artisans qui ont fabriqué la montre que tu portes. On a mis la valeur en fait ailleurs. On a arrêté de placer la valeur dans le produit, la valeur dans le savoir-faire, et on a placé la valeur dans des marques. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont les marques qui portent les valeurs. On peut vendre un t-shirt, on a tous vu dans les grands magasins des t-shirts qui coûtent 100 € et qui sont de qualité médiocre, mais que les gens achètent parce qu'ils appartiennent à une marque. Et donc du coup, les gens les achètent parce qu'ils sont quelqu'un là-dedans, mais on a complètement perdu et on a complètement détruit la courbe. Une courbe qui était très concrète avant et que tout le monde aimait bien, qui était ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, ce rapport qualité-prix, il n'a plus de sens. Et donc, en fait, c'est en déplaçant cette valeur du produit vers la marque que on a déplacé les intelligences, qu'on a délocalisé, parce que du coup, la production, elle pouvait plus coûter autant d'argent qu'elle en coûtait avant. On a cherché à faire en sorte à ce qu'elle coûte le moins d'argent possible et on l'a déplacé dans des pays à bas coût. On a déplacé les déchets, on a déplacé les CO2 que tout ça consomme. On a tout déplacé. Et voilà où on en est aujourd'hui, quoi. C'est que on n'a plus de filière sur tout un tas de sujets. Et tu le disais en introduction, le coronavirus nous met aujourd'hui face à cette grosse inconnue, quoi. C'est comment on en a fait pour en arriver là, quoi.
Comment tu réagis ? Qu'est-ce que ça fait d'être dans les chaussures d'un entrepreneur du Made in France face à cette pandémie mondiale ?
J'ai pas encore beaucoup de recul pour répondre à cette question-là, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je sens, en tout cas, dans les pieds d'un entrepreneur du Made in France, c'est que on a de magnifiques compétences à travers notre pays, que moi, je me rends compte, à travers mon projet, que toutes ces compétences-là sont en pleine perdition, que on manque cruellement de formation pour pérenniser le suivi de ces compétences et de ces savoir-faire, que aujourd'hui on se rend compte et on prend en pleine face le fait que il y a certaines machines qu'on n'a plus pour fabriquer telle ou telle chose, il y a des savoir-faire qu'on n'a plus, il y a plus la puissance industrielle qu'il faut pour réagir du jour au lendemain, monter en stock, monter en cadence, accélérer, et que aujourd'hui les sauveurs qu'on a aujourd'hui, c'est la filière textile qui se mobilise pour faire des masques. Ça, c'est extraordinaire de voir cette belle énergie qui se mobilise, donc d'autres entrepreneurs comme moi du Made in France qui le font et qui ont pu le faire avec les savoir-faire de couturières, etc.
Oui, l'exemple auquel tu penses sans doute, c'est celui de 1083, dont je sais que Thomas Huriez est proche de Routine, hein, si je ne dis pas de
tout
bêtises.
À fait.
Et 1083, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est cette entreprise de Romans-sur-Isère qui fabrique des jeans made in France, mais pas que, des vêtements essentiellement, a réorienté toute la production pour faire sortir de son atelier des centaines de masques tous les jours. Et ça montre à quel point avoir une capacité de production et des savoir-faire et une main-d'œuvre formée et réactive en France, c'est bien, pas que pour faire des produits solides et qui durent, mais aussi de temps en temps pour répondre à des urgences extraordinaires comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement.
Exactement, tout à fait. C'est la question moi que je me suis posée. À quoi bon continuer de vouloir produire ? Aujourd'hui, on est dans une situation complexe et qui nécessite de se reposer la question de quels sont mes besoins et est-ce que j'ai vraiment besoin d'une montre. Et aujourd'hui, la question est non, là, je n'ai pas besoin maintenant, tout de suite, d'avoir une montre. Et donc, du coup, on préfère ben, du coup, laisser le personnel en sécurité chez eux plutôt que de produire des montres. Voilà.
Ouais, non, mais c'est évident. Tu as quand même, là, ces 4 dernières années, fait tout ce travail d'identification. Jusqu'à quel point, toi, ça te donne de l'espoir dans notre capacité à se réapproprier tous ces moyens de production? Est-ce que la tâche, elle est si ardue que ce qu'on peut estimer?
C'est un sujet qui est très complexe parce que ben, il suffit pas juste de... c'est pas comme dans le, sur le sujet... on est sur un sujet industriel. On n'est pas sur un sujet digital où il suffit d'embaucher un développeur et on va réussir à monter un site internet. Là, on est sur du produit. Il y a à la fois la main de l'homme, il y a aussi les procédés à relocaliser, il y a les savoir-faire, il y a les machines, il y a les organisations, il y a tout un tas de choses à relocaliser. Donc en fait, c'est des sujets qui sont forcément long terme, c'est forcément compliqué. Et il faut forcément trouver les bonnes volontés qui vont s'entourer de bonnes volontés. Moi, je ne peux pas le faire tout seul. Moi, en fait, si tu veux, j'impulse la dynamique avec Routine. J'impulse cette envie auprès de mes fournisseurs. Parce que comme je te le dis, je n'ai pas d'outils industriels en propre. J'impulse une dynamique et derrière, je fais en sorte à ce que je sois suivi. Mais c'est eux qui me donnent la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est mes sous-traitants qui, eux, ont la capacité de dire, bah tiens, on va t'aider à essayer de réapprendre à faire ça, à refaire ci, à redévelopper une ligne de prod pour faire ci, pour faire ça. Et ça, en fait, c'est tout simplement des relations humaines et ben, c'est de la communication, écouter les gens, les comprendre et du coup, se comprendre pour pouvoir ben, trouver des solutions.
Et les clients ?
Et les clients aujourd'hui sont de plus en plus à l'écoute de ces sujets-là, de plus en plus sensibles au fait d'avoir un produit qui ait du sens. Il y a une crise de sens un petit peu commune qui est généralisée plus à notre génération des 25, 35, 40. La génération au-dessus, elle y est quand même sensible, pas par rapport à leur crise de sens, parce qu'ils ne l'ont pas forcément eu, mais par rapport au fait qu'eux ont vu les territoires se diversifier. Puisqu'au final, cette délocalisation, cette désindustrialisation, elle a surtout touché les territoires. Pas Paris, pas Lyon, pas les métropoles, mais surtout les territoires, la Franche-Comté. Et on nous a biberonnés, et moi, à l'école, j'ai été biberonné à cette économie de service. Et puis, Florian, tiens, voilà, à la fin de tes études d'ingénieur, tu rentreras dans un grand cabinet de conseil, et puis voilà, tu feras du consulting pour implémenter tel ou tel service dans telle usine ou dans tel machin ou à tel endroit du monde. Et moi, j'ai été biberonné à ça. Et pour autant, j'en ai pas voulu à la fin de mes études. Et voilà, j'ai voulu revenir à des choses qui étaient avec plus de sens pour moi, plus concret, et qui défendent une vision du monde et des valeurs qui me correspondent.
On peut être ambitieux là sur le fait qu'en France, de plus en plus, non seulement le local a le vent en poupe, le made in France a le vent en poupe, et que, enfin, en tout cas, j'aimerais bien voir ton expérience là-dessus, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dépenser 400-500 euros pour une montre de qualité qui durera toute une vie, c'est beaucoup mieux vu qu'il y a encore quelques années en arrière.
Alors en fait, plein de gens auront leur avis sur le prix, encore trop aujourd'hui, parce que on n'a plus, comme je le disais tout à l'heure, cette notion de rapport qualité-prix. Elle est plus cohérente avec la mondialisation. Si on profite d'une main-d'œuvre pas chère à l'autre bout du monde et que les entreprises ne valorisent que cette ne paye le coût que de cette main-d'œuvre qui ne vaut rien, forcément on a un produit qui coûte pas cher et du coup on peut vendre un produit accessible à caractéristiques similaires et pas forcément au même prix que celui que moi je le propose.
Donc toi, tu dis qu'il y a encore ce travail pédagogique d'accompagnement à la compréhension de la vraie valeur du savoir-faire français.
Oui, et moi je dis à tout le monde, essayez d'estimer du nombre de composants qu'il y a à l'intérieur, du nombre d'étapes de fabrication qu'il y a pu y avoir, du nombre de mains entre lesquelles tous ces produits sont passés. Et en calculant juste le nombre, pas forcément le temps, etc., juste le nombre de mains entre lesquelles c'est passé, essayons juste de nous dire si réellement, 100 euros, si c'était passé plusieurs fois entre nos mains à nous, est-ce qu'on aurait aimé être payé 100 euros pour fabriquer ce produit-là ? Et 100 euros, c'est le prix public, donc en fait, c'est même pas le prix auquel moi, je suis payé en tant que fabricant, c'est encore moins que ça, parce que du coup, il faut une marge pour vivre. Et en fait, personne... en France, nous dans notre société, ne voudrait être payé ce prix-là pour avoir passé tout ce temps-là pour fabriquer une montre de telle qualité avec à ce prix-là. En fait, on pourrait même pas vivre en fait.
Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'exemple 1083. Il y a de plus en plus de personnes qui sont heureuses de payer un jean à 110, 120 euros parce qu'ils le savent de bonne qualité, made in France. J'imagine que Routine, vous avez aussi eu des clients qui venaient chez vous au-delà de la beauté de la montre parce qu'il y avait derrière la valorisation d'un savoir-faire français.
Bien sûr. Ah oui, non, mais c'est clair que nous, aujourd'hui, la communauté de Routine, moi, je les remercie chaque jour. J'ai une communauté de clients qui a compris les enjeux de la marque. Qui nous encourage. On reçoit des mails là au début de la crise sanitaire. On a eu des mails de gens qui nous ont souhaité plein de bon courage pour traverser la période. Des personnes qui nous conseillent, qui nous font des retours sur ce qu'ils en pensent. Donc on a vraiment une communauté qui m'aide à réfléchir et qui m'aide à savoir si je suis dans la bonne voie. Donc ça c'est une force. Pour Routine. Et heureusement qu'on a ça.
La notion de client qui passe à celle de communauté, je trouve que c'est hyper important. Tu reviendras dessus tout à l'heure si tu le veux bien. Florian, on aimerait quand même partir ensemble hein, en 2030 glorieuse. Et avant ça, que tu nous proposes une fenêtre de littérature qui, à travers ce que tu as lu, tes lectures, t'ont fait entrevoir ces perspectives de 2030 glorieuses, d'un monde respectueux du vivant.
Donc je vais te lire un passage de « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis, qui nous parle beaucoup du progrès et qui parle notamment d'une situation de l'homme. Donc en fait, on est à la période de la préhistoire, on est encore des subhumains, on est encore des entre l'homme et le singe. Et cet homme-singe fait une découverte particulière, c'est qu'il découvre la maîtrise du feu. La première dispute dont je me souvienne entre ses frères, si différente d'aspect et de comportement, s'était produite à propos du feu. Il faisait froid, j'étais accroupi à distance respectueuse de cette chose tortillante et rouge, toute nouvelle pour nous. Elle me semblait meurtrie, mais furieusement vorace. Et je regardais père l'alimenter avec une nonchalance splendide, mais circonspecte. Les femmes, assises, tout en tas, s'épouillaient mutueusement en jacassant. Ma mère, comme toujours, était un peu à l'écart. Elle mâchait la bouillie pour les bébés sevrés et regardait père et son feu d'un air de sombre méditation. Et tout d'un coup, l'oncle Vania fut parmi nous, silhouette énorme et menaçante. Il parlait d'une voix d'outre-tombe. « T'y voilà donc, Édouard, » grondait-il. « J'aurais dû le deviner. Que tôt ou tard, nous en viendrons là. J'espérais, il faut y croire, qu'il y aurait une limite à tes folies. Imbécile que j'étais, je n'ai qu'à tourner le dos une minute pour te retrouver jusqu'au cou dans une ineptie nouvelle. » « Et maintenant cela » cria-t-il. « Édouard, écoute-moi bien. Ne t'ai-je pas mille fois averti, adjuré, supplié, en qualité de frère aîné, de t'arrêter à temps sur ta lancée calamiteuse et de réfléchir, de t'amender et de changer de vie avant qu'elle ne t'amène tout droit, avec toute ta famille, vers un désastre irréversible. Cette fois, c'est avec une insistance 10 fois multipliée que je te crie « Arrête ! Arrête, Edouard ! Arrête ! Avant qu'il soit trop tard, si même il est encore temps, arrête !» Oncle Vania reprit haleine pour pouvoir terminer son discours pathétique, mais un peu difficile à mener à bonne fin. Et Père put placer son mot. « Tiens, Vania, il y a une éternité que nous ne t'avions vu. Allons, vieux, viens te chauffer un peu. Je suis rentré hier, dit l'oncle Vania, et je t'aurais de toute façon rendu visite un de ces jours. Mais j'ai compris tout de suite, quand la nuit est tombée, qu'il se passait et qu'il se tramait quelques manigances. Je connaissais 11 volcans dans ce département, Édouard, mais 12. J'ai flairé, pressenti que tu n'y étais pas pour rien. Angoissé, je m'élance, je cours, espérant encore contre toute espérance. J'arrive, et que vois-je ? Ma parole, il te faut à présent ton volcan particulier. Ah, cette fois, Édouard, t'y voici. » Père souriait facétieusement. « Tu crois que m'y voici vraiment, Vania ? » demanda-t-il. « Je veux dire que j'ai vraiment atteint le seuil ? » ?»« Oui, je me disais bien que ce pourrait l'être, mais comment en être tout à fait sûr ? » ?»« Un seuil, oui, sans doute, dans l'ascension de l'homme, mais le seuil, est-ce que c'est bien ça ?» Père plissait comiquement les yeux, comme s'il était en proie à la plus vive angoisse. Un seuil ou le seuil ? Je n'en sais rien, dit oncle Vania, et j'ignore ce que tu crois être en train d'accomplir, Édouard. De te pousser le col, ça sûrement. Mais je te dis, moi, que tu viens de faire ici la chose la plus perverse, la plus dénaturée. Mais père l'interrompit. Tu as bien dit dénaturée ? S'écria-t-il avec enthousiasme. Vois-tu, mon vieux Vania, depuis un bout de temps, que nous nous sommes mis aux outils de silex, on pouvait dire qu'il y avait dans la vie subhumaine un élément non naturel, artificiel. Et peut-être que c'était ça, le seuil, le pas décisif. Et peut-être que maintenant, nous ne faisons plus que progresser. Seulement voilà, toi aussi tu tailles le silex, tu te sers le coup de poing, alors pourquoi m'accuses-tu ? Encore ! Dit oncle Vania, je t'ai déjà dit 1000 fois que si l'on reste dans les limites du raisonnable, les outils, les coups de poing ne transgressent pas vraiment la nature. Les araignées se servent d'un filet pour capturer leur proie. Les oiseaux font des nids mieux construits que les nôtres. Je suis prêt à admettre, tu vois, qu'il est licite de tailler des cailloux, car c'est resté dans les voies de la nature. La pierre taillée pour l'homme, non l'homme pour la pierre taillée. Je suis un libéral, Édouard, et j'ai le cœur à gauche. Jusque-là, je peux accepter, mais ça, Édouard, ça, cette chose-là, dit-il en montrant le feu, ça, c'est tout différent. Et personne ne sait où ça pourrait finir. Et ça ne concerne pas que toi, Édouard, mais tout le monde. Ça me concerne moi, car tu pourrais brûler toute la forêt avec une chose pareille. Et qu'est-ce que je deviendrais ?
Merci pour cette bulle de qui nous ouvre vers d'autres manières de regarder l'innovation et que finalement c'est vrai sans doute au moment où l'être humain s'est mis à jouer avec le feu, on s'est posé la question de savoir si le seuil était dépassé. C'est une super transition parce que moi j'aime bien faire cet exercice, pas évident pour un Français de se projeter en 2030 glorieuse. On est dans 10 ans, on a réussi. On a réussi à quoi ? Je sais pas, mais on a en tout cas réussi à dépasser la tendance catastrophique qu'on nous annonçait, celle de toutes les limites de la crise climatique, de la crise de la solidarité, de la crise de la démocratie. Et on a ouvert plusieurs fenêtres, je l'espère, de ces utopies réalistes. Toi, là, tu viens de nous poser la question de l'innovation en ce qui concerne justement ces projections dans ces utopies réalistes. Si jamais je te disais, là, ça y est, Florian, on est en 2030 glorieuse, tu ouvres les yeux, quelle est la première chose que tu vois ?
En 2030 glorieuse, je vois des gens, des hommes avec un grand H, mais je vois de la communication, de l'échange, de l'entraide, du bien collectif. Je vois quelque chose de cohérent entre l'homme, la nature.
Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a 10 ans en arrière, on forçait un peu notre nature à discuter justement avec des grands débats, et puis dans notre relation aux choses, à la richesse. Même notre ancien ministre de l'économie, je sais pas si tu t'en rappelles, Bruno Le Maire, aspirait à un nouveau capitalisme plus respectueux des personnes. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire vis-à-vis de tous ces sujets en 10 ans?
Ce qu'on a réussi à faire, en tout cas en 2030, pour moi, c'est de créer une société plus inclusive. On a réussi à remettre en question le dogme du moi-je, le dogme du moi devenir milliardaire, et que aujourd'hui, ben, en 2030 glorieuse, on a une société qui est beaucoup plus tournée sur le bien collectif. Et du coup, des gens qui sont plus heureux, qui ont moins peur, qui s'écoutent plus.
Où justement, on se questionnait sur la place de l'innovation et le respect qu'on devait avoir aussi vis-à-vis de cette innovation. Quelle est cette place dans une société plus respectueuse du vivant, puisque 10 ans en arrière, en 2020 à l'époque, on se posait même pas la question de la nécessité ou pas de l'installation et du déploiement de la 5G qui nous paraissait évidente.
Effectivement, pour faire le lien un peu avec la lecture, on continue de passer certains caps. La lecture montrait qu'on passait le cap du feu et qu'on se posait la question de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. On a passé auparavant d'autres caps. On a passé le cap de l'Internet au début des années 2000. Dans les années 2010, on a commencé à passer le cap de la robotisation. Dans les années 2020, on a passé le cap de l'intelligence artificielle, du connecté. Et aujourd'hui, on est en train de passer un autre cap, qui est aussi le cap du connecté, mais du reconnecté à la réalité, reconnecté à la nature, reconnecté aux autres. Et un cap qui vient recréer de la cohérence. Et cette fois-ci, en 2030 glorieuse, je suis heureux de vous l'apprendre, on aura enfin défini une idée du monde que l'on souhaite, de cette cohérence du monde, là où en 2020, on ne savait pas encore où on allait, on ne savait pas à quoi allait servir tous ces passages de cap, toutes ces innovations, toutes ces technologies. C'était, à l'époque, on disait que c'était pour notre confort, pour notre bien, mais au final, est-ce que c'était pour le bien de tout le monde? Et aujourd'hui, ça, maintenant, on sait y répondre à tout ça.
Donc, il y a la question d'avoir un débat sur le sens profond de l'innovation. J'entends aussi de ce que tu dis, qu'il faut oser se reposer la question de quel est vraiment notre confort.
Exactement, oui. En 2030, maintenant, les gens comprennent pourquoi... Est-ce que c'est si nécessaire d'avoir acheté telle ou telle chose? Est-ce que c'est si nécessaire de ressembler à qui j'ai envie d'être sur un réseau social? Est-ce que c'est si nécessaire de consommer à outrance des choses qui ne participent en rien à être heureux ou au bien collectif?
On a commencé tout à l'heure à en parler, j'aimerais y revenir. Tu disais que le consommateur, il pouvait reprendre une place de choix dans la fabrication de nos objets, notamment du quotidien. Je sais que Routine a fait l'utilisation du principe du crowdfunding, où en fait les clients décident eux-mêmes de quels sont vraiment leurs besoins, plutôt que ce soit une entreprise qui leur impose. Jusqu'à quel point ça mérite d'être démocratisé, des tendances comme ça?
En fait, il faudrait que ce soit la normalité. C'est que c'est moi pour Routine, je remets au cœur de l'achat pas seulement l'objet, mais le pourquoi ils font leur achat, quel impact il a derrière, et donc de revaloriser toute la chaîne de valeur. Et ça doit être démocratisé auprès de tous pour qu'on puisse enfin en prendre conscience. Je parlais d'écoute tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est un des sujets forts. C'est de savoir écouter les autres pour comprendre réellement leurs besoins. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait en 2020 sur la filière horlogère, c'est d'écouter la filière, d'écouter leurs besoins, d'écouter là où on en était, pour pouvoir l'amener là où elle est aujourd'hui, vers quelque chose de mieux construit, de plus cohérent avec l'ensemble de l'industrie. Et mon rêve, moi, c'est de créer une espèce d'industrie qui soit collective. Si on veut vendre local, il faut qu'on fabrique local. Si on veut vendre à l'autre bout du monde, eh ben, il faut qu'on arrive à le produire à l'autre bout du monde. Et donc, du coup, c'est d'avoir aujourd'hui, en 2030, du coup, une industrie qui coopère et qui ne se fasse plus la guerre.
J'entends qu'il y a aussi beaucoup d'horizontalité dans cette création de valeur où toutes les personnes qui font partie de cette chaîne de production sont valorisées à leur juste place. Comment faire en sorte qu'en 2030 glorieux, justement, on arrive à rééquilibrer un peu la perception de l'apport que chacun a dans l'économie, mais aussi dans la société plus généralement?
Eh bien ça passe par la valorisation du travail de chacun. Ça passe par inclure chacun, responsabiliser chacun à la hauteur où il a envie d'être responsabilisé. Ça nécessite aussi d'éduquer, d'instruire les gens sur l'entreprise, sur ce collectif, pour que chacun y participe et que chacun se sente à la bonne place.
J'ai l'impression que toi, ton travail, Florian, ça a été de raconter cette histoire, où chacun a un rôle à jouer et de la raconter si bien que finalement, ces acteurs, ils soient fiers d'en prendre partie à cette histoire, non ?
Ouais, moi, j'ai donné la parole à tous ceux qui m'ont aidé. Le raconter, c'est une chose. Permettre aux autres de le raconter, on est une autre. Et ça permet de rendre la filière, de rendre l'industrie encore beaucoup plus résiliente et encore du coup beaucoup plus puissante. Une harmonie qui se crée entre talents qui se connaissent, qui sont justement à leur place et qui se laissent aller par la réalité des choses et leurs envies.
J'entends beaucoup dans ce que tu me dis que finalement, 2030 glorieux, c'est aussi une économie qu'on voit aujourd'hui, en 2020, si on fait ce travail de revenir dans le temps présent. On voit plus, on n'a aucune idée de qui fabrique nos trucs, nos bidules, nos machins, et qu'en fait, une décennie plus résiliente, plus humaine, ça serait de, au contraire, faire en sorte que ces gens existent à nouveau, qu'on les voit, qu'on les connaisse.
Ouais. Ce serait en 2030 glorieuse, voilà, il y a plus d'ouvriers qui anonymes dans les entreprises, il y a plus de gens cachés. L'industrie ou les métiers qui à l'époque étaient dits de les métiers un peu de sans diplôme ou de personnes qui ont les mains dans le cambouis, etc. Aujourd'hui, ces métiers-là ne sont plus cachés. Ils sont bien au contraire valorisés parce qu'en 2030, on a bien pris conscience qu'en fait, il n'y a pas de service qui pourra remplacer ça. Et puis même s'il existait un service, eh ben, en fait, c'est toujours bien d'avoir des gens qui savent toujours faire, parce que si un jour le service tombe en rade, eh ben, on sera bien content d'avoir les gens qui savent faire. Et donc du coup, on a créé cette économie qui est multitâche, avec différents niveaux de productivité. C'est pas une économie qui est que centrée sur l'ultra productivité. On sait que il y a certains moments ou certains endroits, on peut ou on doit être moins productif pour limiter certains risques, continuer à tirer notre économie. J'ai pas envie de dire vers le haut ni vers l'avant, mais vers à la tirer dans une situation qui est pérenne.
Florian, 2030 glorieuse, tu consacres toujours l'essentiel de ton temps professionnel à être le dirigeant de routine, ou comment tu t'imagines ?
En 2030 glorieuse, oui, je serai encore entrepreneur. Je passerai encore du temps sur routine, Je passerai du temps à présenter Routine à travers le monde, mais pas en tant que conquérant, pas en tant que quelqu'un qui arrive sur le marché de l'international et qui voilà, veut développer un nouveau marché, mais comme je le disais tout à l'heure, un nouveau partenaire à fabriquer localement, à valoriser notre démarche pour essayer d'essaimer cette dynamique positive et donc du coup d'arriver avec une nouvelle idée de l'industrie et donc du coup de la présenter, d'une part, et puis d'autre part, j'aimerais avoir la chance de passer plus de temps pour moi, pour ma famille, et aussi du temps pour le bien collectif. Voilà, j'aimerais avoir trois temps comme ça. Un qui soit plus sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, Routine. Un autre personnel, et un troisième plutôt tourné sur le collectif.
Si jamais on devait revenir là en 2020, dans notre époque bien tourmentée, les personnes qui nous ont écoutés pendant ces 45 minutes se disent waouh, mais en fait, le Made in France, c'est une aventure extraordinaire où on part à la rencontre des gens, des talents, des savoir-faire. C'est beaucoup plus possible que ce qu'on peut imaginer, même si là, on le voit avec ton exemple qui est très complexe, hein, l'industrie horlogère, elle est très fine avec énormément d'étapes et pourtant, tu réussis en quelques années déjà à accomplir des miracles presque, et ça donne beaucoup d'espoir pour d'autres filières qui pourraient être un petit peu moins complexes sans doute. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Quel serait le premier pas vers le cap des 2030 glorieuses qu'on a essayé d'ouvrir ensemble?
Le premier pas, c'est de se dire que c'est possible, parce que moi c'est ce que je démontre en fait avant tout avec Routine, c'est de montrer que c'est possible. C'est oui, la tâche est complexe, oui, il y a un mur en face de moi, mais c'est possible. Et donc aujourd'hui, j'ai montré que c'était possible de fédérer par moi-même 13 ateliers en France et d'avoir la montre la plus made in France du monde. Et si je m'étais pas dit que c'était possible, et ben en fait, ça, je l'aurais jamais fait. Et du coup, à partir du moment où on se donne cet élan et cet optimisme, on peut arriver à faire beaucoup de choses.
Merci Florian.
Merci à toi.
Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu donner la parole à Florian Chausson, fondateur de la marque de montres Routine, qui s'est lancé en 2016 dans cette aventure complètement folle, hein, quand on y pense, celle de faire en sorte que, à nouveau, nous puissions être fiers, nous en France, d'avoir des montres 100% françaises. Je trouve la démarche de Florian hyper intéressante et je pense qu'il est complètement nécessaire de donner la parole à des gens comme lui à l'heure où, on le voit, notre économie a besoin d'être relocalisée, on a besoin de se réapproprier nos moyens de production, on a besoin de rapprocher les usines où sont fabriqués les produits qu'on consomme au quotidien et pas que, on a besoin aussi des savoir-faire techniques que parfois on a délaissés et qui se retrouvent à l'autre bout de la planète. Parce que, bon ben voilà, en fait, toutes ces personnes qui savent faire de leurs mains et pas que ces objets du quotidien, en fait, c'est primordial. Ce sont de beaux métiers quand ils sont valorisés décemment et qui peuvent laisser libre cours à une belle créativité. Et puis aussi, on le voit en ce moment qu'en cas de coup dur, on est bien content d'avoir à côté de chez nous des gens qui savent vraiment faire. Je suis très heureux d'avoir pu, avec Florian, discuter de comment cette expérience pourrait se propager à une échelle plus nationale, comment cette nécessité de faire en sorte que toutes ces entreprises, ces usines reviennent chez nous est une formidable opportunité de recréer du lien et de faire apparaître ceux qui peuplent les usines du monde et qu'on a complètement oublié, délaissé. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne envie, vous aussi, d'être plus que des consommateurs, d'être même des porte-parole de cette nécessité du Made in France et du local. Et j'espère que vos proches et vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !